propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et points de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Comment prévenir les maladies d'origine hydrique? Des nombreux ménages recourent aux eaux des pluies, aux eaux des puits et même parfois des sources non aménagées pour la boisson, pour avoir l'eau des boissons et autres, avoir l'eau pour d'autres besoins domestiques. Et souvent, l'eau des boissons est polluée, cette eau est polluée, ce qui expose la population à différentes maladies d'origine hydrique. Quelles sont ces maladies et comment les prévenir et quels sont les dangers, les conséquences que cela entraîne? Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Dr Freddy Mangana, médecin à l'ONG, médecin d'Afrique. Encore une fois, bonjour docteur.
Bonjour.
Alors, pouvez-vous nous dire la première question, qu'est-ce qu'on entend par maladie d'origine hydrique?
Oui, par les maladies hydriques, nous entendons toutes les maladies qui sont dues d'abord, premièrement, à l'ingestion de l'eau contaminée, des eaux malpropres. Et aussi, quand on parle de l'ingestion, c'est-à-dire on voit le fait de prendre, de consommer de l'eau malpropre. Mais également, ces maladies peuvent également être dues juste par le contact direct ou indirect avec ces eaux usées. Par le contact direct, on voit, par exemple, la baignade dans des rivières contaminées. Mmh. Par le contact indirect, on voit la transmission de ces maladies ou de ces germes par l'intermédiaire d'un vecteur, c'est-à-dire d'un insecte ou d'un autre animal qui jouera comme intermédiaire dans ces transmissions. Alors bref, les maladies hydriques sont dues justement à l'ingestion et ou au contact avec l'eau malpropre.
Bien, et quelles sont ces maladies?
Oui, les maladies hydriques peuvent d'abord être catégorisées en 4 grands groupes, si je peux dire. Mmh. Le premier groupe des maladies hydriques sont dues aux maladies qui sont dues principalement à la présence dans les eaux usées des germes et des microbes, mais pas seulement des microbes. Les maladies hydriques également peuvent être dues à la présence dans les eaux usées de toxines. Par exemple, il y a un toxine très violent qu'on appelle l'arsenic. L'arsenic se trouve très présent au niveau de poissons. Le poisson ne meurt pas de ça parce qu'ils ont des moyens pour se prévenir contre ça. Mais l'homme qui mange ces poissons contaminés sera victime de ce qu'on appelle l'arsenicisme.
D'accord, vous parlez des 4 grands groupes de maladies. Oui. Là. Le premier groupe?
Oui, le premier grand groupe, je disais, c'est-à-dire les maladies qui sont liées à la présence dans les eaux de germes ou de toxiques, et ces toxiques seront bien sûr ingérés par l'homme. Le deuxième grand groupe de maladies hydriques sont les maladies qui sont dues à la présence, non pas directement de germes, mais plutôt à la présence des vecteurs, comme j'ai dit. C'est-à-dire, il y a des insectes qui se reproduisent au niveau de ces eaux usées, et ce sont ces insectes qui seront à l'origine de la contamination, de la propagation de ces germes. Mmh. Par exemple, on a le paludisme. Le microbe du paludisme ne se développe pas dans l'eau, mais
les moustiques.
Les moustiques se développent dans l'eau. Ce sont ces moustiques qui seront à l'origine, bien sûr, de ces contaminations. Le troisième grand groupe de maladies, ce sont des maladies qui sont juste dues au contact avec l'eau. On voit, par exemple, l'encorcercose, on appelle communément la cécité des rivières, c'est-à-dire des gens qui se sont baignés dans des rivières contaminées peuvent également être victimes de ce genre de maladies. Et le quatrième grand groupe, ce sont des maladies qui sont dues à l'ingestion ou à l'aspiration des aérosols qui sont éliminés ou qui sont émis par des eaux contaminées. C'est-à-dire, l'homme n'est pas obligé directement d'entrer en contact avec ces eaux contaminées, mais du moins, s'il aspire les aérosols, c'est-à-dire l'évaporation de ces eaux usées, alors l'homme peut être contaminé. Il y a une maladie qu'on appelle également la légionnose, mais c'est une maladie quand même rare dans notre milieu.
Dû tout simplement à la, au fait d'aspirer.
Oui, au fait d'aspirer, c'est-à-dire...
Une odeur provenant de ces eaux.
Une odeur, mais beaucoup plus quand, par exemple, il y a le soleil frappe dans l'eau, il y aura l'évaporation de ces eaux contaminées. Et l'aspiration de cette eau évaporée ou des aérosols issus de ces eaux peuvent également causer, être à l'origine de certaines maladies hydriques. J'aimerais juste revenir au premier point, parce que ça, c'est le grand groupe, quand j'ai dit les maladies qui sont dues à la,
présence des germes.
Des germes, oui, ce sont d'ailleurs les maladies les plus fréquentes dans nos milieux. Oui. On a, par exemple, le choléra. Le choléra, la fièvre typhoïde. On a également les différentes hépatites, surtout les hépatites A et C, parce que l'hépatite B est due à la contamination sanguine. Donc, le premier groupe de maladies, ce sont ça le principe, les principales maladies qui sont retrouvées dans nos milieux, surtout dans les milieux africains.
Voilà, donc vous parlez du choléra, la fièvre typhoïde, et l'hépatite.
Oui, les hépatites A et C, ainsi que toutes les formes de dysenterie, c'est-à-dire des maladies diarrhéiques. On a les amibiases, les différentes maladies dues aux parasites intestinales.
Voilà. Et parmi ces maladies, on a l'impression que c'est le choléra qui est beaucoup plus répandu ici chez nous.
Oui, effectivement, le choléra est beaucoup plus répandu dans nos milieux. Beaucoup plus, en fait, il y a, en tout cas, sans doute, chaque année, au moins 2-3 foyers d'épidémie de choléra ici en RDC. Et effectivement, le choléra est très répandu dans notre milieu, tout simplement par rapport aux conditions, bien sûr, aux conditions défectueuses d'approvisionnement en eau potable et bien sûr à un défaut, à un manque d'évacuation correcte des déchets. Et ces déchets sont souvent reversés dans les eaux des rivières ou les eaux que nous consommons dans nos foyers.
Voilà. Donc, ben, il y a certains dans les milieux urbains, les gens ont l'eau de la régie des eaux, ils ont la pompe, l'eau qui est dans la régie des eaux. Mais il y a certains dans certains milieux à travers le pays où on n'a pas, les gens n'ont pas l'eau de la régie des eaux, ils recourent aux rivières, aux puits pour obtenir de l'eau. Et c'est là-bas, c'est suite à la consommation, à l'ingestion de ces eaux malpropres qu'ils attrapent ces maladies. Alors maintenant, donc, est-ce qu'il y a d'autres moyens ou causes qui à la base du développement du choléra à travers le pays.
Mis à part le défaut d'approvisionnement ainsi que le défaut d'évacuation correcte des déchets, il y a également une autre cause qui peut être à la base de choléra. C'est surtout dans l'intérieur, dans les milieux ruraux, où ils sont obligés d'utiliser des eaux. Des eaux, disons, usées pour l'agriculture, par exemple. Bon, bien sûr, c'est une méthode qui est quand même rentable.
Pour l'arrosage.
Oui, pour l'arrosage, disons. On recourt à l'eau de rivière, l'eau déjà polluée, et l'arrosage de ces différents
légumes, par
ces eaux contaminées peut également être à l'origine de choléra. Mais il faut savoir que le choléra ne se transmet pas seulement par l'eau, le choléra peut également se transmettre par un contact direct avec la personne qui souffre déjà du choléra. C'est-à-dire que si on touche le sel et qu'on est en contact avec, bien sûr, la personne qui a touché ces sels contaminés, on peut également être victime de la propagation de la contamination au choléra.
Voilà. Nous avons déjà un premier auditeur en ligne à Mouri, il nous appelle des Kamina, dans la province du Katanga. Nous parlons aujourd'hui de la prévention des maladies d'origine hydrique. Le sujet vous intéresse, appelez-nous au 081 890 63 94.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Comment prévenir les maladies d'origine hydrique? Amoury, vous êtes à Kamina. Bonjour.
Monsieur, j'ai dit Daniel Kachama et bonjour, invité du jour.
On vous écoute, Amoury.
Ouais. J'avais quelques préoccupations à poser à notre invité. Donc, concernant les puits non aménagés, donc non arrangés en ordre, n'est-il pas la cause de maladies hydriques? Est-ce que les puits des autres creusés par quelques ONG qui ne reviennent pas remettre des produits hydriques serait aussi l'une des causes à des maladies aussi hydriques? Et quel conseil que notre invité allait donner à des familles qui boivent de l'eau de la rivière, soit en disant que l'eau qui coule n'a pas de microbes, ainsi que l'eau de pluie après quelques jours?
D'accord, merci Amoury. Doudou Kadima, vous êtes à Mbujimayi, bonjour.
Oui, bonjour, je suis Daniel Kachama, ainsi qu'à l'invité.
On vous écoute, Doudou.
Ok, d'abord, il ne faudra pas s'attaquer d'abord aux conséquences, mais il faut s'attaquer aux causes. Mais moi, j'aimerais d'abord poser la question à l'invité. Sur la régie des eaux.
Oh, désolé, on l'a perdu, il n'est plus en ligne. Revenons aux questions de la mourie, docteur Freddy. Il dit les pouilles non aménagées. Est-ce que ça peut être parmi les causes du développement du choléra?
Oui, effectivement, le puits mal aménagé ou le puits mal entretenu peuvent également être la cause de la propagation des maladies hydriques. Mais ce que j'aimerais quand même relever, c'est que je pense que la plupart d'ONG, quand ils aménagent ces puits, il y a également une éducation sanitaire qui est bien sûr entreprise. C'est-à-dire, je ne pense pas que les ONG s'arrêtent tout simplement d'aménagement de puits. Et particulièrement, quand l'ONG vient aménager un puits, il y a également des séances d'éducation par rapport aux différentes méthodes d'assainissement d'eau. Je vois là la chloration, c'est-à-dire on montre toujours à la population bénéficiaire de ces puits comment assainir leur eau par les différentes méthodes de chloration, comme on dit, c'est-à-dire par usage du chlore et par l'usage des différents désinfectants qui peuvent justement assainir cette eau. Mais il faut également savoir que par rapport à la deuxième question, il a parlé de la consommation des eaux des rivières
et des eaux des puits. Mais les gens disent que c'est une eau qui coule, donc il n'y a pas de problème.
Non, en fait, ce sont peut-être des idées récites qu'il faut quand même essayer de pouvoir enlever sur le chef de certains de nos compatriotes. L'eau des rivières, bien sûr, c'est une eau qui est en train de couler, mais la rivière elle-même, la rivière est bien sûr un lit très favorable à la propagation de ces différents germes. On a tantôt parlé de l'onchocercose, par exemple. L'onchocercose, c'est une maladie hydrique qu'on appelle cécité des rivières. C'est dû tout simplement à la consommation ou à l'usage de ces eaux usées. Et c'est onchocercose. Si vous voyez les statistiques de l'OMS, on voit que la RDC est parmi les pays où le taux d'onchocercose, de cécité des rivières, est très élevé. C'est tout simplement dû justement à ces gens du dé qui pensent que l'eau qui coule n'a pas de microbes. Alors je conseillerais à nos chers amis, à nos compatriotes qui sont dans ces milieux, en tout cas de pouvoir éviter la consommation ou carrément l'usage de ces eaux des rivières ou des eaux de pluie, bien sûr.
Voilà. Et les eaux de pluie également pose problème. Oui, surtout dans certains milieux où les gens n'ont pas d'eau quand il pleut. Bon, on sort les récipients, on fait des provisions rapidement et ces eaux peuvent être consommées.
Oui, les eaux de pluie peuvent causer des problèmes à tous les titres. Premièrement, les eaux qui sont recueillies au niveau des bassins, bien sûr, quand il pleut, généralement ce ne sont pas les eaux qui proviennent directement de la pluie, ce sont des eaux qui sont au niveau de la toiture.
Qui tombent au niveau de la toiture et qui sont recueillies après.
Oui, qui sont recueillies après. Il y a toute la poussière de la toiture qui est reversée au niveau de ces bassins. Et deuxièmement, surtout dans des milieux industriels, dans des milieux comme le Katanga où l'activité minière est très exagérée, alors l'atmosphère n'est plus aussi saine qu'avant.
Alors, comment ça exagère?
Ouais. Bon, pour exagérer, j'ai un peu trop dit.
Mais du moins, il y a une grande activité.
Oui, une grande activité minière, oui. C'est-à-dire, oui, l'atmosphère est quand même polluée. Alors, l'eau de pluie, bien sûr, la pluie, quand il y a pluie, avec la tombe justement de ces différents gouttes d'eau, les eaux de pluie vont emporter avec elles tous les différents déchets, toxiques, les particules liées à l'émanation de ces différentes industries qui sont dans l'atmosphère. Et ces eaux de pluie vont, les gouttelettes de pluie vont accumuler ces différents déchets et l'eau qui sera consommée par l'individu sera bien sûr contaminé par ces différentes substances toxiques et sera à l'origine d'autres maladies qui ne sont pas nécessairement dues qui vont se manifester pas seulement tout de suite, mais dans l'accumulation de ces différentes particules va à la longue, au cours des années, causer des pathologies, bien même des pathologies cancéreuses.
Alors, comment prévenir? Parce que c'est la grande question de l'émission aujourd'hui. Comment prévenir les maladies d'origine hydrique?
Pour prévenir les maladies d'origine hydrique, premièrement, comme je l'ai dit tantôt, il faut d'abord veiller aux différentes voies d'approvisionnement en eau. C'est-à-dire, veiller surtout à la canalisation. Et je crois que ces points reviennent beaucoup plus, non seulement à la population, mais beaucoup plus à l'autorité. C'est-à-dire, il faut toujours veiller à la tuyauterie et veiller, bien sûr, à l'intégrité ou à l'étanchéité de ces différentes tuyauteries pour éviter la contamination des eaux qui seront évacuées à travers ces différentes tuyauteries. Et deuxièmement, il faut veiller également à l'évacuation des déchets. C'est-à-dire, éviter à ce que les déchets ou les voies d'évacuation des déchets, quand je parle de déchets, je vois des déchets ménagers, mais également, je vois des toilettes, si je peux dire.
Oui.
Il faut veiller en sorte que les voies d'évacuation de ces déchets soient ne soit pas en contact avec les différentes voies d'évacuation d'eau. Mmh. Et troisièmement, il faut faire la sensibilisation, c'est-à-dire organiser des séances de sensibilisation de la communauté par rapport à ces différentes méthodes de prévention que je venais de citer tantôt là. Et également, il faut promouvoir également des méthodes d'assainissement ou des méthodes de méthodes d'assainissement d'eau ou de méthodes de chloration d'eau, c'est-à-dire de méthodes qui va permettre en sorte de pouvoir neutraliser les différents. Parce qu'il faut savoir, quand bien même que ici en ville, nous prenons de l'eau potable issue de la régie des eaux, mais il y a également, il y a toujours un degré de micro-organismes qui restent à travers, en fait, qui sont dus justement à la présence des dioteries défectueuses. Et l'eau qui nous arrive au niveau de nos foyers ne sont pas toujours des eaux très potables. Alors il faut toujours faire ce qu'on appelle la surchloration, surtout dans des milieux où il n'y a pas une bonne tuyauterie.
Comment vous appelez ça, la surchloration?
Oui, la surchloration. On parle de la surchloration tout simplement parce qu'au niveau déjà de la régie des eaux, il y a une chloration qui est faite.
Oui.
Alors, et si on est dans un milieu où on est vraiment sujette à la contamination de ces différents organismes, alors on conseille également aux différents foyers de pouvoir ajouter encore du chlore pour
purifier l'eau.
Pour purifier l'eau.
Malonga nous appelle des bandes nouvelles. Joseph est à Kalima, au Manema. Malonga, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute? C'est jeudi, on vous écoute.
Jeudi Kachama, bonjour. Et bonjour à notre invité qui, en tout cas, qui me convainc avec ses explications.
D'accord. Bonjour, merci.
Quelle est votre question?
Okay. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Suivant les explications de notre invité, donc notre invité veut nous dire qu'il faut assainir les milieux pour éviter ces maladies hybrides. Alors, je vais lui demander ceci. La population suit, c'est nous. Il y a des conditions. Il faut assainir, il faut la propriété, il faut quoi. Mais, invité, je vous l'ai dit, la population, c'est comme des enfants de la famille. Si les parents ne mettent pas en garde leurs enfants, on risque de perdre les enfants. Alors, nous ne savons pas. Il y a des villages qui s'alimentent aux eaux de la pluie. Si vous arrivez là, il y a des caca aux alentours. Mais le suivi n'est pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment mettre en pratique ce que vous venez de dire là-bas?
D'accord, merci Malonga. Joseph de Kalima, Omanima, bonjour.
Bonjour aussi à notre invité.
On vous écoute.
Ok, j'ai des questions à poser à l'invité. La première est la suivante, qu'on peut faire la cuisson avec l'eau de la bouche. Et la deuxième question, c'est que prenant bien ta reine et sa piscicole, est-ce que ça peut entraîner des maladies?
Bien, on n'a pas bien saisi votre deuxième question. Pouvez-vous la reprendre?
Ok, ma deuxième question est de savoir, est-ce qu'on peut prendre bien dans un état piscicole, là où l'eau de ces états est stagnante?
Vous dites si on peut prendre son bain dans un étang piscicole?
Ah oui. Est-ce qu'après là, bien, avec ces liens, ça peut constituer des maladies hydriques?
D'accord, merci. Joseph, docteur Freddy, qu'est-ce que vous pouvez dire aux deux auditeurs?
Oui, par rapport à notre premier auditeur, c'est-à-dire la population qui consomme l'eau de pluie autour desquelles on a des différentes matières fécales. Alors, là, c'est un problème de changement de mentalité. Et le changement de mentalité passe toujours par des sensibilisations. Et je crois que le gouvernement ainsi que les différents ONG sont en train de s'investir par rapport à la sensibilisation et à l'usage correct des eaux.
Donc, on peut dire que les toilettes ne doivent pas être à côté des puits d'eau.
Oui, les toilettes ne doivent pas être à côté des puits d'eau. Et généralement, d'ailleurs, il y a des principes, surtout quand on veut construire bien sûr une toilette dans des endroits où il y avait déjà un défaut d'hygiène, il y a des principes qu'il faut tenir compte. C'est-à-dire que, par exemple, on dit que les toilettes ne doivent pas être en amont par rapport au puits d'eau, ainsi de suite. Donc, il faut tenir compte de ces différents principes, mais il faut surtout mettre un accent particulier à la sensibilisation. Essayer d'enlever les différents stéréotypes, les différentes idées reçues par rapport à la consommation de ces eaux. Et oui.
Et ça, Joseph parle de la cuisson. Est-ce qu'on peut cuire les aliments avec de l'eau, avec les eaux des pluies?
En tout cas, on ne peut pas cuire directement les aliments avec de l'eau du puits. Et si, bien sûr, on peut utiliser d'autres méthodes pour assainir, pour améliorer la qualité de cette eau des puits. Notamment, on peut le réchauffer, on peut le filtrer et on peut le chlorer. Et c'est seulement après ces trois différentes méthodes qu'on peut, l'eau de pluie peut être destinée à l'usage domestique. Mais sinon, comme je l'ai dit tantôt, l'eau des pluies n'est pas indemne de tout micro-organisme.
Voilà, et est-ce qu'on peut prendre un bain dans un étang piscicole? Il veut dire peut-être avec l'eau provenant d'un étang piscicole.
C'est une pratique vraiment à déconseiller parce que, comme je l'ai dit tantôt, le poisson ou généralement les animaux de mer sont souvent des hôtes intermédiaires, comme on dit. C'est-à-dire, ce sont des animaux qui régorgent ou qui emmagasinent les différents germes qui seront à l'origine de la contamination. J'ai parlé tantôt de l'Orchocercus, mais également ce qu'on appelle les Naegleria, c'est-à-dire c'est un microbe qui est souvent dû justement à la contamination dans une baignade, dans une rivière, dans une piscine, vraiment contaminée dans un état piscicole comme il dit. Et comme je l'ai dit tantôt, là, le poisson sont des grands réservoirs de l'arsenic et le poison arsenic, c'est un poison très violent et si on est en contact avec, on risque gravement de développer des signes de toxicité et même entraîner, être victime d'une mort soudaine.
Écho d'économie sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Comment prévenir les maladies d'origine hydrique? Aloïs Sakaji, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour Jody Kachama et bonjour au docteur, notre invité.
On vous écoute, bonjour. Aloïs.
Voilà, j'ai deux petites questions à poser à l'invité. La première question est celle-ci. Quelles sont les recommandations que l'invité peut faire à ceux qui vivent dans des milieux ruraux? Oui, il y a vraiment insuffisance des moyens financiers, par exemple, mais il n'y a pas aussi l'existence des régies des eaux. Et très souvent, nous constatons que ce sont, par exemple, c'est l'eau de la source qui sert dans la plupart des cas. Ça, c'est la première question. La deuxième question, elle est, la dernière est celle-ci. Pourquoi nous constatons que dans des milieux urbains, souvent les maladies d'origine hydrique sont plus nombreuses que dans des milieux ruraux. Merci beaucoup.
Bien, Jean des Dieux Minengou de Kikwit, bonjour.
Bonjour, je suis content de dire que c'est un poisson qui est très intéressant. J'ai aussi des préoccupations à vos invités.
Oui.
La première est... Est-ce que l'océan forage a attiré une distance de 135 mètres de profondeur peut contenir des microbes si ce n'est pas propre?
La deuxième question... Oui, Jean des Dieux, on ne vous entend pas très bien. Je vais vous demander de vous déplacer un peu et de parler un peu plus fort pour nous permettre de bien écouter vos questions. C'est fait?
Oui, c'est déjà fait.
Alors, allez-y.
Je voulais juste demander à notre invité qui puisse nous dire que notre forage est attiré une distance de 195 mètres de profondeur peut contenir des microbes qui n'est pas propre. La deuxième question est parce que je voudrais revenir en retard. Si vous nous expliquez, il y a combien de sortes de maladies hydriques. La troisième est pour terminer, qui puisse nous expliquer s'il y a une inondation et que les enfants jouent l'eau de pluie qui coule, et s'il y a un danger où les enfants là pouvaient attraper une maladie hydrique. Merci.
Bien, patient Paul, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Jody, ainsi qu'à l'invité.
Votre question?
Ah, voilà, je prends le cas de Kinshasa avec il y a certaines sociétés brassicoles qui utilisent ces eaux pour faire les glaces qu'ils vendent tout au long de la journée. Mais lorsque les acheteurs prennent ces blocs de glace, ils l'utilisent pour maï à malili. Et ils essaient donc de congeler. Donc, tellement qu'on sait bien tout au long de la rivière, il y a certaines parcelles dont on a canalisé donc l'air tuyau de WC jusqu'au fond de la rivière. Et toutes les matières fécales se déversent donc dans la rivière. Quelles sont les conséquences qui peuvent donc arriver donc une fois donc que ces gens-là donc utilisent ces glaces et puis donc revendent donc encore auprès des gens et même certaines personnes ici à Kinshasa qui prennent ces glaces-là pour donc soit congeler de l'air façon avec de l'air donc ou soit faire donc qui se retrouvent donc mieux parce que tellement la journée est tellement surchauffée. Voilà.
Bien. Par rapport aux glaces, qu'est-ce que vous voulez dire? Les gens utilisent ces glaces, ces glaçons, et puis ils mettent ça dans des sachets, et plus tard, bon, quand ça s'effondre, ils vendent cela comme de l'eau? Attendez, ça chien. Patient. Ouais, il n'est plus en ligne. On allait bien comprendre sa question. Donc, est-ce que ces gens utilisent les glaces et puis ils les découpent pour les mettre dans des sachets et puis ils vendent ça ou comment ça se passe exactement? Bon, il va peut-être nous donner des précisions plus tard. Sadi Ngembo et Tamatadi, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Sadi.
J'ai une préoccupation. Je voudrais demander un peu à notre invité, étant qu'expert, si on prend la ville de Kinshasa telle qu'elle est là, est-ce que si on n'a pas des maladies hydriques, c'est parce que les services concernés font bien le travail pour éviter ces maladies ou parce que c'est un simple hasard, parce qu'on n'a pas des maladies hydriques? Ça, c'est une préoccupation parce que si nous voyons les contextes, tout ce qui nous entoure par rapport à la manière où nous gérons de l'eau, de la régie des eaux, les revendeurs d'eau, que ce soit artisanal, que ce soit professionnel, là, et nous les utilisateurs ou les consommateurs, la manière que nous utilisons de l'eau à Kinshasa, avec la population de Kinshasa, avec notre culture, avec nos coutumes, si on n'a pas des maladies hydriques, c'est un hasard ou c'est la main de Dieu ou parce que nous prenons bien en charge tous ces éléments-là?
D'accord, merci Sadi Ngembo. On va répondre rapidement. Vous allez répondre rapidement, Dr Freddy, à tous ces auditeurs. On va commencer par Aloïs, je crois, de Kananga. Il dit, dans les milieux ruraux où la régie des eaux n'est pas là, alors quel conseil vous pouvez donner à ces gens pour l'eau, pour la purification d'eau?
Oui, pour la purification d'eau dans des milieux ruraux où il n'y a pas accessibilité à l'eau de la régie des eaux, il y a deux méthodes principales qu'on peut conseiller à ces gens-là. Premièrement, d'abord, l'usage du chlore, comme on a dit. Le chlore, c'est un produit qui coûte relativement moins cher et qui est vraiment à la portée de toute bourse, si je peux dire. Et deuxièmement, s'il n'y a pas disponibilité du chlore, on peut toujours recourir au chauffage d'eau, c'est-à-dire chauffage jusqu'à 100 degrés, jusqu'à l'ébullition complète. On laisse refroidir et puis on consomme cette eau. Donc, ce sont là deux méthodes principales et des méthodes beaucoup plus simples, beaucoup plus pratiques à utiliser.
La chloration.
Et le
chauffage d'eau.
Oui.
Voilà, et puis il dit que dans les milieux urbains, il y a beaucoup plus de maladies hydriques que dans les milieux ruraux. Est-ce que c'est vrai, d'après les études faites?
Non, pas les études, je ne pense pas que c'est vrai. C'est juste une impression qu'on a, mais je le comprends parce que les milieux urbains, c'est un milieu qui est vraiment beaucoup plus surveillé que le milieu rural. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'agences sanitaires, il y a beaucoup, bien sûr, des surveillances par rapport à cela, et l'organisation est beaucoup plus prononcée dans les milieux urbains plutôt que dans les milieux ruraux. C'est-à-dire que l'enregistrement ou les recensements de ces différentes maladies sont beaucoup plus faciles dans des milieux urbains que dans des milieux ruraux. Alors c'est juste une impression qu'on a, c'est-à-dire on recense beaucoup plus de maladies dans ces milieux urbains, tout simplement par manque de statistiques ou par manque d'études poussées dans des différents milieux ruraux. Il faut savoir que la RDC c'est un vaste pays, donc on n'a pas toujours accès dans tout le profondeur.
Je rejoins la question des Sadi qui dit si par exemple à Kinshasa les gens ne tombent pas malades, n'ont pas de maladies d'origine de caisse, ça relève d'un simple hasard ou c'est tout simplement la grâce de Dieu qui protège les gens?
En dire qu'à Kinshasa, il n'y a pas de maladie hydrique, je ne pense pas que ce soit vrai, parce qu'on a parlé tantôt là du choléra. Il y a toujours des épidémies de choléra à Kinshasa toutes les années, ou au moins toutes les deux ans. Et il y a également la fièvre typhoïde qui fait rage par rapport, disons, comme maladie hydrique à Kinshasa. Mais ce que je vais quand même relever, à Kinshasa, comme dans tout milieu urbain, des gens sont habitué à l'usage abusif des antibiotiques. C'est-à-dire, moindre mal, il prend des antibiotiques. Et bien sûr, ces antibiotiques ont des effets néfastes par rapport à l'organisme. Mais ça permet également la résorption de certains signes qui peuvent permettre le diagnostic de ces différentes maladies. Alors, on a l'impression que les maladies hydriques ne sont pas diagnostiquées, tout simplement parce que la prise en charge ou l'antibiotique pris à la maison empêche le diagnostic de ces différentes maladies à l'hôpital. Donc, mais à vrai dire, à Kinshasa, il y a des maladies hydriques. Il ne faut pas dire que dans les milieux urbains, il n'y a pas des maladies
hydriques. Il y en a. Mais beaucoup, c'est beaucoup plus, les cas sont beaucoup plus développés, recensés dans les milieux ruraux que dans les milieux urbains.
Oui, effectivement.
Si on peut le dire ici, parce que là-bas, ils n'ont pas accès à l'eau potable.
Ils n'ont pas accès à l'eau potable. Oui.
Alors, il y a Jean qui a parlé d'un puits lorsqu'on fait un forage de 195 mm. Est-ce qu'il y a danger d'avoir des maladies d'origine hydrique? Un puits, on a foré jusqu'à 195 mm.
Ah, il faut savoir par rapport au forage, plus on va en profondeur, moins on a des chances d'avoir des microbes. Mais pour avoir la précision exacte sur la présence ou non de microbes, il y a des études de laboratoire qui doivent être par rapport à l'eau qu'on a prélevée. Alors, c'est difficile de se prononcer directement forcément si un forêt de 195 mm est absence ou...
Alors il parle, en cas d'inondation, lorsque les enfants jouent avec ces eaux-là, en cas d'inondation, est-ce qu'il y a des dangers d'attraper des maladies?
Oui, effectivement, il y a des dangers d'attraper des maladies. D'abord par contact avec la peau, c'est-à-dire qu'il y a des maladies qui vont pénétrer dans l'organisme par l'intermédiaire de la peau. Il y a la schistosomie, ce qu'on appelle vulgairement la bilharziose. C'est une maladie dont la contamination est transcutanée, c'est-à-dire la pénétration des germes à travers la peau. Et deuxièmement, quand ils jouent avec cette eau, il y a toujours une quantité d'eau qui est ingérée par inadvertance par l'enfant. Et alors, il y a le risque de contamination est également très élevé. Et beaucoup plus, surtout, les risques de contamination par rapport aux différents bacilles typhoïdes ou paratyphoïdes.
Il y a des patients qui parlent des blocs de glace. Peut-être qu'il y a certains qui utilisent les glaces qui sont servies par les sociétés brassicoles. Et puis, ils découpent les morceaux, qu'ils mettent dans des sachets, et puis ils vont vendre aux consommateurs. Est-ce qu'il y a des dangers pour ceux qui consomment ce genre d'eau?
Ah, j'avoue que c'est une information que je viens d'avoir.
On découvre aujourd'hui.
Effectivement, les dangers sont d'autant plus imminents qu'il faut savoir, parce que beaucoup de gens ont l'impression que le froid tue les microbes. Non, il faut savoir que le froid ne tue pas les microbes. Le froid neutralise juste les microbes. Et lorsque l'eau sera réchauffée, le microbe sera en activité. Donc même si vous prenez de l'eau qui était déjà souillée, vous mettez dans le congélateur, que ça s'est refroidi à moins 270 degrés Kelvin ou Celsius, il ne faut pas penser que les microbes seront tués. Non, le froid ne tue pas le microbe, le foie neutralise juste le microbe. Alors, cette eau qui va fondre va bien sûr entraîner également la résurgence et le réveil de ces microbes.
Alors, il parle aussi des gens qui ont des toilettes et ils n'ont pas de fosse septique. Alors, les tuyaux vont directement dans les rivières et dans des quartiers. On voit même quand il pleut à Kinshasa, certains en profitent pour ouvrir leur fosse septique et libérer les matières fécales dans la nature. Alors, pour ceux-là qui ont des toilettes avec des tuyaux qui vont directement dans les rivières, ça, c'est une pollution permanente de l'eau.
Malheureusement, c'est une réalité triste que nous rencontrons souvent dans notre milieu. C'est une réalité vraiment morbide. Et bon, bien sûr, ce qu'il faut savoir, on peut toujours incriminer ces différentes populations ou les différents foyers qui le font. Mais il faut également noter que les différents méthodes, les différentes voies d'évacuation de ces déchets, des déchets de fosses septiques sont délabrés. Et alors, là, il faudrait vraiment faire appel à l'autorité pour assurer un aménagement adéquat de ces différentes voies d'évacuation pour empêcher, bien sûr, ces genres de pratiques très redoutables pour notre santé.
Docteur Freddy Mangana, médecin à l'ONG Médecins d'Afrique, merci.
Merci, monsieur. Au Capi.